Suivez votre émission Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, la référence du paiement de facture via le mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bon début de semaine à tous, merci de votre fidélité, vous nous appelez et vous vous exprimez en direct sur l'antenne d'RFI. Ce matin, nous lancerons le débat après la désignation de la Rwandaise Louise Mushikiwabo au poste de secrétaire générale de la francophonie, un choix qui, vous le savez, ne fait pas l'unanimité, d'autant que la langue française est marginalisée au Rwanda et le pays est régulièrement pointé du doigt pour non-respect de la démocratie et des droits de l'homme. Louise Mushikiwabo incarnera-t-elle les valeurs de la francophonie? Quelles doivent être ses priorités? Vos réactions nous intéressent. Vous nous rejoignez ici à Paris, 33 9 693 693 70. Le débat du jour, ce sera dans 30 minutes, mais vous êtes déjà très nombreux sur la page Facebook de l'émission. Sarko, par exemple, affirme que la francophonie doit être un instrument solide de bonne gouvernance. Hélas, écrit-il en lettres majuscules, elle sert aujourd'hui aux intérêts inavoués dans certains dossiers internationaux. Moussiliou affirme que l'Afrique est le berceau de la francophonie. Il est donc normal que le poste de secrétaire général revienne au continent africain. Et puis cette dernière réaction, et j'en lirai d'autres évidemment tout à l'heure, tout au long du débat, la réaction de Joseph, qui souligne que le Rwanda n'est pas un pays anglophone à part entière, comme certains le disent. D'ailleurs, le Rwanda n'a jamais tourné le dos à l'organisation de la francophonie. Vous continuez donc à nous poster vos réactions, vos commentaires, et on se retrouvera dans 30 minutes pour vous donner directement la parole. Mais d'abord, ce sont vos questions à la rédaction pour mieux comprendre l'actualité. Des questions sur la grève illimitée des magistrats au Mali. Cela fait, tenez-vous bien, plus de 80 jours que la justice malienne est à l'arrêt. Bonjour Kalilou.
Oui, bonjour Anne, bonjour à tous les auditeurs.
Vous êtes à Cotonou, au Bénin, nous vous écoutons.
Après 12 semaines de grève des magistrats, ils ont annoncé la poursuite de leur grève. Ce malgré le récent décret du gouvernement imposant la réquisition des magistrats. L'une de leurs demandes est la sécurisation des tribunaux. Alors, en quoi se sentent-ils menacés et quelles pourraient être les conséquences de cette grève sur la justice malienne?
Oui, c'est vrai que cela fait 80 jours que la justice malienne est totalement à l'arrêt. Bonjour Serge Daniel.
Juan, bonjour.
Correspondant de RFI à Bamako, depuis le 25 juillet, les deux syndicats de la magistrature observent donc une grève illimitée. Kalilou le disait à l'instant, il réclame une augmentation de salaire, mais aussi une sécurisation des tribunaux. Concrètement, pourquoi les magistrats se sentent-ils menacés?
Alors, ils se sentent menacés parce que vous savez que il y a quelques mois, il y a un juge dans une localité qui s'appelle Nono, c'est environ à 300 km de Bamako, qui a été enlevé. Par exemple, pourquoi? Parce que il y a une insécurité, notamment à l'intérieur du Mali, Mopti, ou dans la région de Mopti, d'où nous revenons, Ségou un peu plus au sud, et les juges avaient demandé à l'État de sécuriser le lieu où ils travaillent et de les sécuriser également. Alors, pour les sécuriser, le gouvernement a mis à leur disposition des éléments des forces de sécurité et de défense. Mais pour les magistrats, ça ne suffit pas, il faut renforcer ce dispositif, et là, donc, le CADI, nous ne pouvons pas faire plus, voilà ce que nous pouvons faire. Donc voilà. Alors pour le moment, vous l'avez dit tout à l'heure, la situation est en fait bloquée entre l'État et les magistrats grévistes, la situation est bloquée, c'est un bras de fer. Chacun durcit sa position. Le premier ministre a décidé de faire une réquisition. Les magistrats ont répondu, nous n'allons pas obtempérer, nous n'irons pas travailler. Et cette semaine, le Premier ministre a promis de saisir le Conseil supérieur de la magistrature pour éventuellement annoncer des sanctions.
Oui, et essayer de débloquer évidemment la situation, d'autant que cela fait 12 semaines, Serge Daniel, que les audiences ne se tiennent pas. Concrètement, quelles sont les répercussions, les conséquences de cette grève?
Alors, ce qui est simple, par exemple, vous savez, pour constituer un dossier, pour voyager, pour aller étudier, par exemple, à l'étranger, pour participer à des concours, il faut une pièce importante qu'on a seulement au niveau de la justice, qui s'appelle le casier judiciaire. On ne délivre plus officiellement aujourd'hui de casier judiciaire. Je rencontre des étudiants qui voulaient aller poursuivre des études, qui ne peuvent pas, qui veulent par exemple, postuler à un poste administratif. Ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas le casier judiciaire. Alors, dans les commissariats, dans au moins trois commissariats de Bamako, la situation est quand même difficile parce que les gardes à vue sont prolongés. Il y a un violon qui ne peut plus prendre de monde, par exemple, parce que justement, il y a une grève et que la machine est plutôt bloquée. Il n'y a pas de procès dans les tribunaux de Bamako. Quand vous faites un tour, vous ne voyez pas de procès. Les avocats ne travaillent pas, l'Europe noire ne travaille pas non plus. Et c'est également au niveau du tribunal du commerce, il y a des problèmes, parce que vous avez des hommes d'affaires qui ne peuvent pas légaliser leurs papiers. Ils ne peuvent pas légaliser leurs papiers, tout simplement, parce que le tribunal du commerce est également fermé. Vous avez dans des hôtels de Bamako, je rencontre des hommes d'affaires qui ont des partenaires maliens, qui ne peuvent pas signer un contrat, qui ne peuvent pas légaliser un document pour pouvoir mener des affaires. Et puis ensuite, ce qu'on annonce maintenant, vous en aurez terminé, c'est au niveau des déclarations de naissance. Vous savez que au niveau des déclarations de naissance, il faut forcément passer là aussi par la justice pour établir l'acte de naissance de nouveau-né. La situation n'est pas encore dramatique sur ce point, mais certains estiment que si ça se poursuit, on risque d'avoir quelques soucis là aussi.
Et d'ailleurs, si vous nous écoutez à Bamako ou un peu partout sur le territoire malien, appelez-nous, témoignez des répercussions, des conséquences de cette grève illimitée des magistrats qui dure depuis maintenant plus de 80 jours. Merci Serge Daniel d'avoir été en direct de Bamako. Kalilou, bonne journée à Cotonou. Il est 10h17 à Paris, ce sont vos questions. On accueille Frédéric qui nous appelle de Goma. Bonjour Frédéric. Fabrice, bonjour Fabrice.
Bonjour, Juan Gomez, c'est Dunia Massacre, Fabrice, depuis la suite de Goma.
Alors, j'espère que le réseau sera meilleur, hein, puisqu'il y a des micro-coupures. On va tendre l'oreille pour écouter vos questions.
Oui, j'ai entendu sur RFI la semaine dernière que le gouvernement angolais a procédé à expulser les Congolais vivant sur son territoire. J'aimerais savoir pourquoi le gouvernement angolais a-t-il décidé.
Alors c'est vrai que depuis le début du mois, des dizaines de milliers de Congolais ont été expulsés d'Angola. Passion Ligodi est avec nous, bonjour.
Bonjour Juan.
Vous êtes l'un des correspondants de RFI en République démocratique du Congo. Expliquez-nous comment le gouvernement angolais justifie-t-il ces expulsions. On parle de dizaines de milliers de Congolais, certains avancent même le chiffre de 180 000 ressortissants congolais expulsés depuis le début du mois d'octobre.
Oui, ce qu'il faut dire d'emblée, c'est qu'au moins 800 étrangers ont été arrêtés en Angola, dont des nombreux Congolais, et depuis environ 2 semaines, c'est en marge d'une opération visant les étrangers en situation irrégulière dans le pays. Ils sont soupçonnés de participer au trafic des diamants, et dans le même cadre, plus de 100 comptoirs d'achat et ou de vente de diamants ont été fermés. Ces chiffres ont été donnés par les gouvernements provinciaux de Lunda Norte, qui est une province d'Angola,
oui,
frontalière de la RDC.
Frontalière, effectivement, de la République démocratique du Congo. Alors, il y a toutes ces expulsions qui défraient la chronique, mais on parle aussi de Congolais qui ont quitté l'Angola de façon volontaire.
Oui, selon les autorités angolaises, environ 200 000 Congolais ont quitté l'Angola à marge de cette opération. Beaucoup sont des retournés volontaires qui disent rentrer au pays à cause de la violence qui entoure cette opération.
Comment l'accueil est-il organisé côté angolais, puisque j'imagine qu'accueillir des dizaines de milliers de personnes en quelques jours, en quelques semaines, ça déstabilise quelque peu la région du Kassai notamment.
Exactement, les Congolais expulsés et les retournés volontaires rejoignent la RDC principalement par les postes frontaliers de Kamako, on est là dans le Kassai. Ils se plaignent notamment de la brutalité de la police angolaise, mais aussi des conditions d'accueil jugées difficiles à Kamako. Beaucoup passent nuit à la belle étoile et beaucoup également dans des salles de classe ou aussi dans des églises.
Oui. Vous aviez une autre question, Fabrice?
Oui, Juan Gomez, j'ai ma deuxième question. Pendant l'opération d'expulsion, 10 Congolais ont été assassinés par la police angolaise. J'aimerais savoir quelle est la réaction du gouvernement congolais face à ces compatriotes tués par la police angolaise.
Oui, alors on parle effectivement d'une dizaine de Congolais tués lors de cette manifestation, des Congolais qui manifestaient pour dénoncer justement la brutalité de la police angolaise lors des opérations d'expulsion. Y a-t-il eu, Passion Ligodi, des réactions à Kinshasa ?
Jusque-là, les gouvernements congolais dit privilégier les voies diplomatiques pour régler cette affaire. La première autorité congolaise est arrivée sur place à Kamako, c'est le gouverneur du Kasaï. Il a institué un comité de crise pour identifier les personnes arrivées en vue d'une assistance, notamment en soins de santé et en nourriture. Et ce matin, on apprend que 28 sites vont être ouverts cette semaine dans la cité de Kamako pour accueillir ces personnes dans des conditions acceptables. Mais sur le plan diplomatique, il semble qu'il y a beaucoup de contacts qui ont été déjà menés. Mais dans la presse ou en public, il n'y a aucune déclaration officielle qui a été faite pour condamner ces attaques, ces expulsions qui sont, il faut les dire, selon beaucoup d'ONG et beaucoup de témoins et beaucoup de personnes qui sont retournées d'Angola, qu'on a pu rencontrer et qui disent que c'est très très violent les conditions dans lesquelles ils quittent l'Angola pour la RDC.
À suivre donc. Merci Passion Ligodi, correspondant de RFI à Kinshasa. Fabrice, on vous souhaite une belle journée à Goma, en République démocratique du Congo. On va parler football maintenant. On a une question sur l'AS Monaco. Christophe Jousset du service des sports nous rejoint justement. Bonjour Christophe.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Et c'est Patrick qui est à Port-Gentil au Gabon qui nous pose ses questions. Bonjour Patrick.
Bonjour Juan Gomez.
Bienvenue, nous vous écoutons.
Oui Juan, Leonardo Jardine a été limogé la semaine dernière par manque de résultats. Alors, Juan, ma première question, est-ce que le mauvais classement de l'AS Monaco est du seul fait de Leonardo Jardine? Est-ce que c'est lié à l'absence des recrutements pendant l'été des Mercato?
Alors, Christophe Jousset, question d'autant plus d'actualité. C'est vrai que Leonardo Jardine a été gentiment remercié la semaine dernière. C'est vrai que le club connaît un début de saison pour le moins catastrophique. Ils sont, Monaco, je crois, est 18e hein, oui, en classement de Ligue 1. Est-il le seul responsable?
Non, évidemment. Et Patrick, d'ailleurs, a mis un peu le doigt sur le problème. Le recrutement de l'AS Monaco, en fait, Jardine est aussi victime de cette politique qui est en cours depuis des années à l'AS Monaco et qui consiste à recruter des joueurs jeunes, souvent, à les faire progresser et à les revendre assez vite pour faire une grosse plus-value. En fait, Leonardo Jardim, il a fait la démonstration de sa qualité à l'AS Monaco. Il venait du Sporting Lisbonne, il n'était pas encore un entraîneur très reconnu. Et à l'AS Monaco, il a eu d'excellents résultats. Évidemment, le meilleur résultat, c'est le titre de champion de France en 2017, au nez et à la barbe du puissant Paris Saint-Germain. C'était un gros coup, un joli coup, une sacrée performance. Il y a eu aussi, pendant ces quatre saisons au club, un quart de finale de Ligue des Champions en 2015, une demi-finale de Ligue des Champions en 2017, ce que le PSG version Qatar n'a pas encore réussi à faire. Donc vraiment, de grands, grands résultats. Et en fait, le problème est aussi ce renouvellement perpétuel de l'effectif. C'est-à-dire que Leonardo Jardim, depuis qu'il est là, saison après saison, il réussit d'abord à être dans le top 3 et il voit ses meilleurs joueurs partir. Être vendu pour faire, comme on le disait, des plus-values. Donc c'est un chantier permanent.
Donc c'est tout à son honneur finalement, puisqu'à chaque fois il a dû s'adapter et il l'a fait sans protester avec des résultats qui sont bons.
Oui, ça avait,
sauf cette saison.
Ça avait même l'air de lui plaire. Hein. Oui. Il disait qu'il appréciait en fait ce challenge permanent, mais cette fois ça n'a pas marché. En fait, il avait réussi des miracles chaque saison, et cette saison, alors peut-être aussi à cause d'une certaine forme de lassitude, hein, parce que ça a pas collé cette saison avec le groupe, les jeunes qui sont arrivés ne sont pas encore intégrés. Bon, il y a eu aussi un côté un peu malchance, puisque Golovin, le Russe, a été blessé pendant longtemps. Bref, ça ne colle pas, et ils ont enchaîné les défaites. Une victoire en 12 matchs, toutes compétitions confondues, effectivement, c'est un départ catastrophique.
Patrick, vous aviez une autre question?
Oui, Juan. Thierry Henry a été nommé comme sélectionneur de l'AS Monaco. Alors, Juan, je voulais savoir, est-ce que Thierry Henry a déjà entraîné une équipe de football? A-t-il les armes pour remonter l'AS Monaco?
Alors, c'est une bonne question que tout le monde se pose. Christophe Jousset, Thierry Henry. Bon, on revient pas sur son palmarès de joueur. Excellent palmarès. Mais un bon joueur ne fait pas forcément un bon entraîneur.
C'est sûr. On va voir ce qu'il va donner. Il a tout à démontrer puisqu'il est débutant. En fait, il a son diplôme d'entraîneur, qui lui permet d'entraîner un club de l'élite comme Monaco depuis janvier 2018. Simplement, il a passé ses diplômes au Pays de Galles. Donc, il a tout à démontrer. Il est jeune. Il a 41 ans. Il a pas mal d'atouts dans sa manche quand même parce que Monaco, il est comme chez lui à Monaco. C'est là qu'il a débuté. Oui. Premier match pro en 94, il avait seulement 17 ans et c'était le début d'une carrière extraordinaire. Donc il est un peu en terrain connu. Et puis les joueurs qu'il va diriger le connaissent. 41 ans, ils ont encore en mémoire toute sa carrière, oui. Meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France.
La majorité des joueurs qui évoluent à l'AS Monaco avaient certainement dans leur chambre, quand ils étaient gamins, des posters de Thierry Henry.
Probablement. Ils savent aussi qu'il a une statue en tant que meilleur buteur de l'histoire d'Arsenal. Oui. Il a une statue au pied de l'Emirates Stadium. Donc, le respect, il va l'avoir. Après, il faut faire ses preuves. Il a une petite expérience dans l'encadrement avec son poste d'adjoint à la Coupe du Monde et les Diables Rouges de Belgique, qui ont obtenu le meilleur résultat de leur histoire à la Coupe du Monde, la troisième place. Donc pas mal d'atouts dans sa manche, mais c'est la vérité du terrain qui va compter. On attend de savoir aussi précisément ce qu'il en pense. Sa première prise de parole est prévue mercredi, oui. Présentation à la presse, et puis son premier match sur le banc de samedi
prochain.
À Strasbourg.
À suivre donc. Merci beaucoup, Christophe Jousset, bonne journée. Patrick, merci de vos questions. On vous souhaite une belle journée à Port-Gentil au Gabon. On termine avec Apoulos. Bonjour.
Bonjour, Juan Gomez.
Vous avez des questions concernant le désormais ex-ministre des Finances en Afrique du Sud.
Évidemment. Alors, le ministre des Affaires sud-africain a démissionné la semaine dernière suite à des accusations de corruption. Quel impact cette affaire va-t-elle avoir sur la présidence de Cyril Ramaphosa, sachant qu'il s'était présenté comme le fer de lance de la lutte anti-corruption?
Effectivement, vous avez raison. Kofi Kwaku est avec nous pour vous répondre. Bonjour.
Bonjour. Aussi bonjour à votre auditeur de Dalois où j'étais au lycée 1 moi-même.
Ah, très très bien. Vous êtes en tout cas consultant indépendant, spécialiste des affaires africaines. Vous êtes avec nous en direct de Johannesburg. Effectivement, c'est un coup dur tout de même pour le président Ramaphosa qui comptait sur ce ministre pour relever les finances, relancer l'économie sud-africaine. Et puis, patatras, ce ministre fait l'objet d'une enquête de corruption.
Ben oui, bien entendu, mais l'impact sera très mineur parce que la qualité du travail que François Néné a fait pour l'Afrique du Sud est considérable. Donc je crois que son image de marque sera un peu teintée, mais pour Cyril Ramaphosa, c'est une occasion de montrer que le fer de lance contre la lutte anticorruption est quelque chose qu'il maintient après avoir accepté sa démission. Donc je ne pense pas que l'impact sera très 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 fort. L'Afrique du Sud en ce moment à la croisée de chemin traverse des crises extraordinaires, que ce soit politique, sociale, mais surtout économique. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui va passer très vite.
Ouais. En tout cas, cette démission donne du grain à moudre à l'opposition qui dit « Mais regardez, le président Ramaphosa a été élu pour lutter contre la corruption et il s'entoure de personnes à qui on reproche justement, certainement, d'être mêlé à des affaires de corruption. »
Oui, bien entendu. Par exemple, vous avez un parti d'opposition qui s'appelle le Combattant pour la Liberté Économique. Qui sont très agressifs, qui sont aussi assez durs sur le président et sur ses collègues. Et mais il y a vraiment pas de... Jusqu'à présent, on n'a pas encore beaucoup de preuves, bien que ce parti dit qu'il a des preuves. On n'a pas encore montré comment Tchantchan Néné est très corrompu. Bon, les rencontres qu'il a eues avec la famille Bouta ne sont pas vraiment des preuves de corruption pour l'instant.
À suivre donc. Merci beaucoup, Kofi Kwaku, d'avoir accordé quelques minutes à l'antenne de RFI pour répondre à Apoulos, qui nous appelait donc de Daloa, ville où vous avez fait une partie de vos études, si j'ai bien compris. D'autres questions à la rédaction de RFI demain matin. D'ici là, vous n'hésitez pas, vous continuez à nous rejoindre ici à Paris. Le standard reste évidemment ouvert, 33 9 693 693 70. Si vous nous envoyez vos questions sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas de nous indiquer en message privé, évidemment, vos coordonnées afin que nous puissions vous rappeler. Dans 10 minutes, la deuxième partie d'Appel sur l'actualité, on débattra tous ensemble de la désignation de Louise Mushikiwabo à la tête de la francophonie. C'est un sujet qui vous passionne et qui ne vous laisse pas indifférent, si j'en crois les nombreuses réactions que nous avons déjà au standard.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.